cette analyse financière sera présentée avec le cabinet Sèvres Finance, qui est spécialisé dans la gestion de la dette et de la trésorerie, et la collectivité locale de Lourdes a externalisé la gestion de la dette au cabinet. Donc c'est intéressant d'avoir deux regards sur la situation, avec un bout fait par le cabinet sur la gestion de la dette. L'analyse financière, ça se compose généralement et traditionnellement de deux parties. Un volet rétrospectif sur d'où je viens et un volet prospectif de 2014 à 2020 qui sera présenté avant le vote des budgets 2015. C'est un document et un outil de gestion très important pour piloter la gestion dans les collectivités. Alors je vais essayer, c'est technique, je suis désolé, je vais essayer de vulgariser et à la limite pour que ce soit pédagogique, si vous butez ou si vous ne comprenez pas sur les termes, me poser des questions, mais à ce que je puisse reformuler. Alors, un avant-propos, il faut savoir sur quoi les commentaires portent. La ville de Lourdes, alors Lourdes, c'est un S, mais c'est un périmètre pluriel. Il y a un budget général, mais il y a toute une kyrielle d'autres entités qui gravitent et qui ont un lien financier avec le budget général de la collectivité. Donc ça permet de mesurer tous les engagements, et donc financiers, et tous les risques éventuels à anticiper. Donc un petit zoom sur le périmètre à contrôler. Vous rappelez qu'il y a diverses façons de gérer un service public. On parle de modes de gestion qui sont privés au public, avec des services publics qui sont administratifs, industriels, commerciaux, j'y reviendrai. Et je vous exposerai la méthodologie d'analyse par les flux. Je vous dirai en quoi ça consiste, de manière à ce que tout le monde puisse bien comprendre les enjeux. Alors, au niveau du périmètre de la ville de Lourdes à contrôler, hein, nous avons mis un budget général au cœur et des relations avec un système de satellites, à commencer dans la sphère publique par 8 budgets annexes. Donc, ce sont des budgets qui ne sont pas dans le budget général. Deux établissements publics à vocation administrative, l'un à vocation administrative, pardon, qui s'appelle le Centre d'action sociale, et l'un à vocation industrielle et commerciale, qui s'appelle l'Office de tourisme. Nous avons, la ville participe à quatre établissements de coopération intercommunale, le syndicat mixte du Haut-Acam, le syndicat mixte du Pays d'Égal, le syndicat mixte Fil Vert pour le transport, et la communauté de communes du Pays Lourdais. Là, on entre dans la sphère privée, puisque les associations sont des acteurs de droit privé. Donc, une vie associative très riche, puisque un tissu associatif de 150 associations. Un peu plus dans le privé, il faut savoir, et vous le savez, hein, que la commune est l'actionnaire majoritaire d'une société d'économie mixte de l'accueil. Et un peu plus éloigné dans la sphère privée, toujours à contrôler, ce qu'on appelle des engagements hors bilan. Ce sont les garanties d'emprunt que la ville a souscrit, hein, notamment en direction du logement social, un bail emphytéotique pour la réalisation de la construction de la gendarmerie, et donc de la gestion des loyers, et un crédit immobilier pour la gestion d'un bâtiment industriel. Donc vous voyez que dans l'ensemble, si je puis dire, un groupe Ville de Lourdes, les budgets sont divers et variés. Et Lourdes, ça pèse tout ça. Alors, on regarde ensuite les relations entre le budget général et tous ces satellites. Mais déjà, à noter que dans le budget général, vous avez des services publics majoritairement gérés en régie directe, c'est-à-dire directement par les services municipaux. Nous avons également des services assujettis à TVA qui sont non érigés en budget annexe, notamment la zone industrielle du Mange, la boutique du musée Pyrénéen et l'embarcadère du lac de Lourdes. Donc, trois spécificités déjà dans le budget général. Dans les budgets annexes, nous avons huit budgets annexes, des budgets annexes industriels et commerciaux, dont la gestion est externalisée, la Lyonnaise des eaux, en affermage pour la distribution d'eau potable et l'assainissement collectif, des services industriels et commerciaux, géré par Logis Direct, mais assujetti à TVA. On a le parking, les opérations funéraires, le golf, le funiculaire du Pic du Gard et des activités industrielles. Et enfin, un service public administratif géré en régie directe et assujetti à TVA. L'unité fermière multigamme. Généralement, quand vous êtes sur des services industriels et commerciaux, l'équilibre financier se fait par le tarif. Et on verra qu'il y a des exceptions. Les budgets annexes des établissements publics. Alors, nous avons une relation financière entre le budget général et le CCAS via une subvention, autour du million d'euros, et des relations financières avec l'Office de tourisme via une ressource affectée qui s'appelle la taxe de séjour. En décembre, le budget des EPCI, donc des services ou des activités communales, ont été transférés, c'est-à-dire que la ville n'est plus compétente dans les activités ou dans les services transférés, soit des intercommunalités sans fiscalité propre, les IDGAV, le OTACA, le fil vert. La ration financière, c'est une contribution obligatoire qu'on appelle participation. Et on a également une intercommunalité à fiscalité propre où la communauté a cédé, transféré, pardon, plutôt, ses compétences. La ration financière, c'est un terme barbare, c'est via ce qu'on appelle l'attribution de compensation et éventuellement des fonds concours. Voilà. Alors pour être totalement complet, il y a eu un échange de fiscalité entre les communes de la CCPL et la communauté. La commune perçoit la fiscalité économique, les communes perçoivent de la fiscalité ménage. L'originalité ici, c'est que la communauté perçoit aussi une part additionnelle de fiscalité ménage. La vie associative, ben, le lien financier, il est autour de subventions versées et d'avantages en nature octroyés par des mises à disposition qui sont quasiment à titre gratuit ici. Ce sont des locaux, des fluides, de la mise à disposition de personnel, du prêt de matériel ou des interventions des services techniques. Donc la participation dans la scène de l'accueil, donc c'est l'achat d'actions à 51% au capital. Et nos engagements en bilan, ce sont des garanties d'emprunt pour le logement social, pour le social avec l'ADAPI, et un prêt garanti au niveau de l'IOTACAM. Et on a un crédit bail immobilier et un bail emphytéotique administratif également. Bon. Généralement, on est un peu l'intervenir en matière de garantie d'emprunt quand, ben, par exemple, un bailleur social ne peut faire pas face à ses remboursements d'annuité. À contrôler donc. C'est bon pour le périmètre? Alors, la méthodologie d'analyse. Donc, la particularité de la comptabilité publique, contrairement au secteur privé, on parle de compte de résultats, de bilan. Comptable. Chez nous, c'est un petit peu pareil, sauf qu'on a d'autres termes. On parle plutôt de section de fonctionnement et de section d'investissement. La section de fonctionnement correspond à 100% à ce qu'un compte de résultat d'une société privée. Ça mesure l'activité normale d'une structure. La section d'investissement est un petit peu particulier par rapport au bilan, puisque les classes, le bas de bilan, classes 4 et 5, ne sont pas comprises dans nos budgets publics. Elles sont chez le percepteur. Néanmoins, pour bien comprendre les enjeux, nous avons donc des dépenses et des recettes et deux sections. Au niveau des dépenses de fonctionnement, pour produire des services publics, on a besoin d'achats de fournitures, de prestations de services, de frais de personnel pour faire fonctionner les services, de remboursement de produits qu'on appelle, de charges qu'on appelle la taxe sur produits, mais ça à la marge. On verse des subventions et des participations aux syndicats, aux associations. On rembourse les intérêts de la dette et on a des fois des charges exceptionnelles. D'accord? Côté recettes, on a le produit des services et du domaine. Des locations, les parcs-mètres, ce genre de choses. Les impôts et taxes, c'est la première des ressources. les dotations de l'État. Des produits financiers, c'est vraiment à la marge, et des fois des produits exceptionnels. Généralement, il vaut mieux, les produits de fonctionnement sont toujours excédentaires par rapport aux dépenses de fonctionnement. C'est ce qu'on appelle, au niveau financier, l'épargne. Dans le privé, on parle des capacités d'autofinancement. Voilà. Ça sert à deux choses, à rembourser le capital de la dette, et s'il en reste, à autofinancer les projets. Jusque-là, c'est bon. Ce qui nous fait basculer en investissement, puisqu'on retrouve ce pavé ici. Donc ça sert bien à faire face au remboursement du capital de la dette et à autofinancer une partie des projets d'investissement. Le complément, puisqu'on doit voter un équilibre, étant les ressources propres d'investissement, un terme barbare hein, qui veut dire fonds de compensation de la TVA, on récupère de la TVA, des subventions d'investissement sur les projets, et le reste, c'est de l'emprunt voilà, pour financer totalement le projet. Donc la méthode d'analyse va suivre cet ensemble-là, ce cadre-là, et on ne va étudier que les flux d'argent en dépenses comme en recettes. Je ne prends pas en compte les charges calculées ou les opérations d'ordre. Donc là, on est vraiment en monétaire. Alors d'abord le budget général et ensuite l'agrégation du budget général et du budget annexe. Donc en termes de section de fonctionnement, on va regarder les dépenses et les recettes, la fiscalité et les dotations de l'État. Alors tout le monde voit ? Bon. Donc par grand poste de dépenses, on constate quoi ? On constate que les dépenses de fonctionnement ont évolué en euros courants hein, de 15%. Donc ça fait, de 2008 à 2013, une augmentation de presque 3 millions d'euros. D'accord ? Avec un poste achat prestation de service qui a évolué de plus de 700 000 euros, les frais de personnel qui, eux, ont évolué fortement, 1,6 million, des atténuations de produits, des intérêts de la dette. Ce qu'on constate, c'est que les deux tiers des augmentations sont générées par des dépenses dites rigides, plutôt incompressibles. C'est-à-dire que ici, charge de personnel, on embauche un personnel statutaire, fonctionnaire, à moins de le mettre dehors, la charge, elle est pour la collectivité pour longtemps. D'accord ? Ça veut dire ça, incompressible hein, pour le ménage. Côté recettes de fonctionnement, donc par grand poste, hein, on s'aperçoit qu'elles ont progressé de 5%. Donc, il y a déjà un delta de 10 pour les dépenses. Avec une évolution du poste fiscalité, qui est la première recette, mais qui est complètement annihilé par les baisses de dotations de l'État. Donc, en fait, la seule progression des 5%, le fameux million, il est fait par les autres recettes, et notamment le produit des services et du domaine. Donc ça, c'est quelque chose d'important et de révélateur, et qui aura un impact sur l'épargne. Bon, quand je zoome sur la fiscalité, on a des évolutions classiques de nos bases, avec un recours au levier fiscal en 2009, 2010, 2011, 2012, une stagnation en 2013. Voilà. C'est juste un constat. On recroisera avec d'autres notions fiscales juste après. C'est-à-dire la question, est-ce que fiscalement, l'ORDH, une notion qu'il vérifie, c'est la notion de potentiel fiscal. Alors, je suis désolé, etc., mais barbare. Mais le potentiel fiscal, ben, on regarde au niveau des bases de Lourdes, on va appliquer le taux moyen pondéré de la moyenne de sa strate démographique et on va regarder comment on se situe par rapport aux autres villes de sa strate démographique. Donc, on s'aperçoit que longtemps et potentiellement, Lourdes était riche par rapport à la moyenne des communes de son même niveau de population. Sauf que En fin de cycle, ça s'inverse. Généralement, la corollaire, et malheureusement ça vérifie, c'est que sur la mesure de l'effort fiscal, c'est-à-dire voir comment je sollicite le contribuable, ben là aussi ça s'inverse. Lourdeur, le solliciter faiblement par rapport à sa part, moins que sa moyenne. Et à un moment, ça s'inverse. C'est classique. Et si vous rajoutez à ça que la moitié en France de la population paye sa taxe d'habitation, ça veut dire que celui qui subit l'augmentation, et en plus est propriétaire, il paye doublement. Donc ça veut dire que côté fiscalité, va falloir y aller vraiment. Alors côté analyse et dotation de l'État, on a un double phénomène. On a un phénomène de baisse des dotations forfaitaires parce qu'on perd de la population. Ça, c'est net. Et en plus, à compter de 2014, on le verra dans la prospective, on a des problématiques de baisse volontaire imposées par les lois de finances. Tout ça, c'est connu par des lois de programmation de 2010, parce qu'on doit contribuer à l'effort de redressement des comptes publics. Et dans la relation avec l'État, pour contribuer, c'est des baisses de dotation dans notre seconde ressource par les lois de finances. Et ça va baisser 4 fois, 2014, 15, 16 et 17. On a estimé la perte à 2 millions d'euros pour la ville. Voilà pour l'investissement. On passe sur le fonctionnement, on passe sur l'investissement. Donc sur la période, ben, les dépenses d'investissement, les 40 millions de dépenses d'équipement de réaliser sur le territoire, c'est important. Avec, vous voyez en bleu les cycles d'investissement et en rouge le remboursement du capital de la dette. La somme des deux donnant les dépenses réelles d'investissement. Donc il n'y a pas de remarque particulière. Au niveau recettes, pour financer les 40 millions, on a investi, on a, pardon, on comptait. Pour moitié, on a eu des subventions d'investissement, donc 8 millions sur 40, ça fait à peu près 20% de dette. Donc c'est un petit peu faiblard, on va dire. Donc on a dû compenser par autre chose, le bas de l'aile, la trésorerie. C'est comme dans une logique d'aménageur. Alors avant d'aller plus loin, je vais faire une passe à Charlotte. De Cédon Finance.
Donc, Cédon Finance donc, accompagne la ville de Lourdes dans sa gestion de la dette depuis 2010. On a expliqué comme ça exactement tout à l'heure. Donc, moi, je vais faire un petit zoom justement sur l'évolution de cette dette sur la période et positionner la dette à la fois dans le contexte financier actuel et à la fois peut-être par rapport aux autres collectivités de comparables. Je vais commencer par un rappel du contexte financier, parce que, comme vous le savez tous, depuis 2008, l'environnement économique a été bouleversé par une crise financière très importante et qui a été à l'origine une crise de la dette qui part aux États-Unis, puis de la crise de la dette dans le monde et qui finalement a atteint aussi les collectivités locales à plusieurs niveaux que je vais vous expliquer. Donc, effectivement, en 2008, la banque Lehman Brothers fait faillite suite à la crise des subprimes aux États-Unis. Le système bancaire mondial a été fragilisé. Il s'en est suivi une défiance des banques les unes vis-à-vis des autres et un inversement des grands équilibres financiers, comme les taux de change, les courbes des taux, etc. L'impact que ça a eu, c'est qu'en France, certaines collectivités s'étaient engagées sur la dette structurée, indexées sur ces sous-jacents-là, et qui donc se sont retrouvées exposées au retournement des marchés financiers par les cochers. Et cette crise des prêts structurés a fragilisé l'image des collectivités locales par rapport à leurs financeurs, c'est-à-dire par rapport aux banques. Moi qui ai ça?
Non, non, c'est l'emprunt.
Ah, mais c'est pas grave, parce que je pense que je vais pouvoir continuer en tout cas pour le temps que ça redémarre. Voilà. Donc, en fait, les banques, par ce fait-là, ont eu commencé à avoir peur des collectivités et à leur prêter à des conditions qui étaient beaucoup moins avantageuses et avec des marges, donc des coûts toujours plus importants. Il faut savoir qu'il y a un autre effet, ça s'est combiné à un autre effet, c'est la réglementation de Bâle 3, qui elle aussi a été la suite de la crise financière, et qui en fait a changé les critères de comptabilité pour les collectivités dans les comptes des banques. Autrement dit, comme les collectivités sont uniquement emprunteurs et ne placent pas d'argent en contrepartie, hein, puisqu'il y a un monopole de placement des collectivités au trésor, donc du coup, les ratios de fonds propres exigés pour des prêts aux collectivités sont devenus beaucoup plus importants. Ce qui fait que, à la fois, les banques avaient moins envie de prêter aux collectivités locales, ça leur coûtait plus cher, et du coup, les conditions de financement se sont considérablement dégradées sur la période, à un moment où la crise financière était devenue une crise économique, où les collectivités locales ont eu envie de financer des projets pour contrebalancer la dégradation de l'État général, et du coup, les collectivités locales se sont endettées plus cher. Voilà. Ça, c'était pour faire un rappel. Voilà, donc j'ai encore un petit peu de... Voilà, donc ce que ça a impliqué, c'est que alors même qu'après la crise, les taux d'intérêt sont devenus très bas, les collectivités locales françaises ont continué à s'endetter d'une part très cher et en plus très rigide. C'est-à-dire qu'il a fallu être un peu prévoyant, lancer des consultations pour démobiliser des fonds, pour être certain d'avoir des fonds, donc parfois au détriment des conditions financières. Pour tout vous dire, alors qu'en 2011-2012, au moment où c'était plus tendu, il y avait des collectivités locales qui lançaient une consultation et qui arrivaient à peine à couvrir 30-50% de leurs besoins. Quand on arrive à 100%, ça veut dire qu'en gros, vous aviez 25 millions d'investissement, on vous prêtait 5 millions, ben, vous n'avez pas le choix, vous prenez le prêt qu'on vous donnait. Et alors qu'aujourd'hui, un appel d'offres, vous lancez une consultation, vous avez au moins 5, parfois 6, parfois 7 banques qui répondent sur des taux différents, etc. Le marché, si vous voulez, est redevenu normal. Ce qu'il faut comprendre, c'est un peu comme si vous, à titre particulier, vous aviez voulu faire un prêt et qu'il n'y avait qu'une seule banque qui acceptait de vous prêter, bah, même si elle vous prête à 8% et que vous avez besoin de votre argent, vous prenez. C'était vraiment ça le contexte que les collectivités locales ont vécu. Donc, qui explique aujourd'hui que le coût de la dette est plus élevé que ce qu'on aimerait voir dans beaucoup de collectivités. Et à Lourdes aussi, mais malheureusement, oui. Donc, ce petit graphique, c'est juste pour vous montrer l'évolution des taux d'intérêt sur le marché depuis 2008. On voit qu'avant la crise, il y a eu des tensions, les taux ont augmenté, et après, politique de soutien de toutes les banques centrales dans le monde, hein, c'est ça, c'est les mouvements qu'on retrouverait aux États-Unis, en Angleterre, etc. Donc voilà, les taux ont considérablement baissé. On a eu, fin 2011, une perte des vision de croissance dont les taux ont remonté, et puis de nouveau, là, la morosité, hop, les taux rebaissent, et on a une politique de soutien et de maintien des taux très bas. Pour vous dire, le taux à 10 ans, il est inférieur à 1%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le taux moyen d'emprunt à 10 ans sans marge, c'est inférieur à 1%. Voilà. Alors, cependant, vous, collectivité locale, même si théoriquement vous devriez vous endetter presque sans marge puisque vous avez une garantie d'État, pour plein de raisons qu'on a expliquées, ce n'est pas le cas et les banques appliquent des marges sur les taux de financement. Le graphique sur la droite présente ainsi l'évolution des marges. Ce qu'on voit, c'est essentiellement qu'en 2011-2012, le niveau des marges est devenu colossal, puisqu'on a atteint 300%. Donc là, c'était le pic des difficultés pour les collectivités locales. Plus personne ne répondait aux consultations. Et quand on vous prêtait de l'argent, on vous l'a prêté très cher. Voilà. Heureusement, comme les taux avaient un peu baissé, on se retrouvait à des coûts d'emprunt qui étaient quand même de l'ordre de 4%. mais qui était au demeurant bien loin des 1,5-2% qu'on pouvait observer sur le marché et auquel se finançaient les grosses entreprises, l'État français, tout un tas d'agents, mais pas les collectivités locales. Voilà. Donc en fait, voilà, on a eu en plus, suite à la crise sur les empreintes toxiques et face à la méfiance financière, une tendance des collectivités locales qui a été très forte à Lourdes mais qui s'observe de manière générale à s'endetter à taux fixe. C'est-à-dire qu'on disait, oula, on prend plus de risques financièrement, on s'endette à taux fixe, c'est plus prudent, au moins on va voir quelles vont être nos charges financières. En fait, en réalité, quand les taux sont très bas et restent très bas, s'endetter à taux fixe, bah, ça coûte plus cher. Donc, si les taux remontent, c'est intéressant, voilà, vous gardez la chance de bénéficier de la baisse. Et puis, il y a eu un moment où, de toute manière, les banques ne proposaient plus de taux variable. Ça correspondait à peu près au moment où les marges étaient plus élevées, parce qu'afficher à une collectivité locale marché plus 3%, c'était trop cher. Il faut savoir qu'avant 2008, les collectivités locales se finançaient à marché plus 0,05, 0,02. Voilà, et on est passé en 3 ans à 3%. Et en plus, on a eu une disparition sur la période de tous les aspects revolving, qui était un outil formidable pour la gestion de l'équilibre financier et budgétaire et pour le financement des projets. Donc toutes ces caractéristiques qui avaient été montées près 2008 ont au fur et à mesure disparu. Ils commencent légèrement à réapparaître en fin de l'année 2014. Voilà, donc ainsi, là, c'est un petit tableau qui reprend les montants d'emprunt de la ville de Lourdes de 2008 à 2014, avec le coût moyen des emprunts qui ont été faits, la durée moyenne, les niveaux de marché et le coût moyen sur le secteur collectivité. Donc ce dont on s'aperçoit, c'est que la ville de Lourdes s'est toujours endettée à peu près au coût du marché. Sauf sur certains financements qui avaient été mobilisés préalablement en fait, à leur date de souscription pour se les garantir. Donc il n'y a rien d'étonnant ou d'incroyable dans le coût de la dette de la ville. Voilà. Alors aujourd'hui, si on fait un point entre 2010 et 2014, le volume de dette de la ville est passé de 33 millions à 43 millions. Ça fait plus 10 millions. Sur 4 exercices, une dette qui est de plus en plus à taux fixe, puisqu'on avait 19 millions d'encours à taux fixe et maintenant on en a 30. On avait 7 millions de dettes à taux variable, elle a diminué pour être inférieure à 5 millions aujourd'hui. Et on a de la dette qu'on appelle structurée, donc ne pensez pas, je vais vous expliquer que la dette structurée est vraiment peu risquée, mais bon. Qui est conditionnel quand même, qui est passé de 7 millions à 9 millions 7. Voilà. Le coût moyen de la dette aujourd'hui, il est passé de 3% à 3,5%. 3,5%, pour vous positionner, ça serait le troisième quartile si on classait les villes comparables en coût de la dette. C'est-à-dire que vous êtes légèrement au-dessous de la moyenne en coût de la dette. C'est lié au fait tout simplement que vous avez beaucoup de taux fixes. Si vous avez eu des taux variables, vous auriez bénéficié de la baisse des taux et vous voyez. Voilà, vous avez une durée de la dette qui est moyenne également, un nombre de contrats. Peut-être que quelqu'un a une question ? Voilà, donc si on reprend, ce qui est important à noter, c'est que s'il y a une significative augmentation de l'encours de 2010 à 2014, et cette augmentation va continuer en 2015. Du coup, vous avez une extinction en annuité du capital qui est stable sur une très longue période, donc jusqu'en 2027. Donc actuellement, si le coût du désendettement, si vous voulez, ne commence à diminuer qu'à partir de 2028. Bon, voilà, c'est le détail des chiffres peut-être passé. Voilà, il y a des emprunts à mobiliser, ce qui est mon graphique, que l'encours augmente jusqu'à 2016. Voilà, donc c'est les emprunts qui restent à mobiliser. Voilà, juste un petit zoom sur la dette qui avait été classée en structurée. Donc c'est de la dette qui n'est ni fixe ni variable, c'est de la dette pour laquelle le taux d'intérêt à payer dépend de conditions de marché. Et en fait, ce qu'on voit, ça c'est un graphique qui s'appelle la charte de bonne conduite, ou charte Gisler, qui classe les emprunts en fonction du risque. Plus vous montez dans la diagonale, plus l'emprunt est risqué, plus vous êtes en bas à gauche, moins l'emprunt est risqué. Donc ce qu'on voit, c'est qu'à Lourdes, globalement, vous avez du taux fixe et du taux variable qui se classent en zone peu risquée. 5 millions de dettes qui se classent en 1B, ça veut dire que c'est du taux fixe, et si jamais les taux montaient beaucoup, beaucoup, vous pourriez payer, enfin, si les taux montaient, vous pourriez payer du taux variable. Donc en fait, c'est un risque qui s'assimile à un contrat à taux variable, c'est pour ça qu'ils sont considérés comme taux risqués. Et vous avez un seul emprunt qui est un peu à la marge et qui est classé en 1E. Voilà. En ce qui concerne la répartition de la dette par budget, on a un budget principal qui pèse 60% de l'encours global, un budget assainissement qui pèse pour 33,5%, et ensuite suivi de budgets beaucoup plus marginaux, le plus important étant le budget l'eau à 3,5%. On peut faire maintenant un petit point du coût de la dette par type d'indexation. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en 2010, il y avait 10 millions de taux fixes qui coûtaient 3,71% alors que le marché était à 2,94. Aujourd'hui, on a 16 millions de taux fixes qui coûtent 4% alors que le marché coûte 0,66. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous portez un taux fixe d'origine à autour de 4%, et que maintenant, c'est plus du tout les niveaux de financement. Et alors qu'un particulier peut renégocier un emprunt à taux fixe, parce que la législation le protège, hein, le coût de sortie est plafonné à 3% du capital. Pour les collectivités locales, ce n'est pas du tout la même chose. Les banques ont intégré des indemnités qu'on appelle actuarielles et qui permettent de toute manière à la banque, si vous remboursez votre emprunt par anticipation, de vous faire payer des indemnités tellement importantes que vous-même vous refinancez au prix marché, ça ne vous rapporterait rien. Autrement dit, vous êtes collé avec ces emprunts jusqu'à leur extinction. Il n'y a pas de... Voilà, vous ne pouvez pas en sortir. Ça, c'est important parce que sinon, vous pourriez vous dire, c'est pas compliqué, on passe notre dette. Ouais, ça, c'est possible. La dette à taux variable, vous voyez, il y avait 2 millions en 2010 qui coûtait 1,67%. On a 3 millions qui coûtent 2,80%, c'est lié à la hausse des marges, parce que le marché, lui, il est passé de 1,90 à 0,5. La dette structurée, c'est à peu près stable en coût, donc je ne vous fais pas de topo là-dessus. Donc, vous avez essentiellement la moitié de la dette à taux fixe, un quart à semi-taux fixe, et le reste est parti sur des index monétaires et au bord tout à fait classique. Donc ça, c'est une diversification, si ce n'est qu'il y a un peu trop de taux fixes, qui ne pose pas trop de problèmes. Le principal financeur de la ville, c'est la Caisse d'épargne, avec 10 millions de financements, suivi par Dexia, suivi par la CAFIL, je pense, avec 7,8 millions. Et Dexia avec 5,8 millions. Donc ça aussi, c'est les prêteurs classiques de toutes les collectivités, on retrouve tous les grands financeurs. En synthèse, la ville de Lourdes a subi un endettement croissant, avec une indexation à taux variable insuffisante, qui présente aujourd'hui un coût d'opportunité important et qui génère de la rigidité de gestion dans l'encours. La dette de la ville est peu risquée, et par conséquent, coûteuse, c'est-à-dire que la politique de l'endettement à taux fixe, effectivement, budgétairement, c'est confortable, et, puisque vous n'avez pas fait de lisibilité, mais finalement, en termes de frais financiers, ça vous génère des surcoûts. Une durée de vie de la dette assez longue, surtout un amortissement assez lent, qui explique que vous avez un coût de la dette très important jusqu'en 2027, et des marges sur taux variable qui pourront être renégociés si les conditions continuent à s'améliorer. Donc, en conclusion, on peut dire que la ville de Lourdes risque de devoir limiter sa politique d'endettement, sauf en améliorant considérablement sa capacité d'autofinancement. Elle a Monsieur Ré fera la transition, je pense. Un des leviers pourrait être de prendre le parti de s'endetter à taux variable afin de dégager des marges de manœuvre budgétaires. Sachant qu'il y a quand même quelque chose d'important, on peut passer presque gratuitement d'un taux variable à un taux fixe, c'est-à-dire que si on envisage que les taux remontent, on peut toujours réaménager un contrat à taux variable, alors que l'opération inverse n'est pas vraie. Donc j'ai fini.
Merci. Donc on continue. Je reviens sur mes deux sections, le fonctionnement de l'investissement, dépenses recettes. On sort du cadre budgétaire, on passe dans le cadre financier. Et on va regarder les soldes intermédiaires de gestion, les niveaux d'épargne et le tableau de financement. Ce sont des variables classiques de l'année financière, privée comme publique. Alors quand on regarde les soldes intermédiaires de gestion, je prends mes recettes de fonctionnement réelles, m'en dit avec un aspect son attribution, ce que j'encaisse. Je regarde ce que je paye, ce que je sors avec les dépenses de fonctionnement, et ça me donne à un moment un résultat. Et ce résultat, au mieux qu'il soit positif, dans le privé, donc qu'il soit un bénéfice. Dans le public, on parle de résultat positif, hypocritement parlant. Ce qu'on constate, c'est que sur la durée, on arrive à un résultat négatif de 344 000 euros. Dessus, on porte son cru, bien évidemment. Les crus dans les charges de fonctionnement, dans les dépenses de fonctionnement, c'est 300 000 euros. Exactement 340 000 euros. Si je le retire, c'est un fait exceptionnel, je suis à zéro au niveau du résultat. Comme on dit, mes recettes de fonctionnement égale mes dépenses de fonctionnement. On en déduit très simplement que je n'ai plus aucune capacité pour autofinancer. Fin de l'espace. Quand je creuse un peu plus, je sors du cadre budgétaire, donc c'est ce que disait un petit peu Madame le maire, il faut déconnecter la situation budgétaire, qui nous oblige à voter à l'équilibre, de la situation financière, puisqu'on a tous, au niveau des collectivités, l'obligation de voter en équilibre. Quand je regarde, que je creuse financièrement, j'ai plusieurs niveaux d'épargne. L'épargne de gestion, qui est la différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement hors intérêt de la dette. Quand je retire les intérêts de la dette, ça me donne un niveau d'épargne brute. Je reviendrai. Et quand je retire de l'épargne brute le remboursement du capital de la dette, ça me donne une épargne nette, qui est en fait ma réelle capacité à autofinancer. Donc là, on s'aperçoit bien qu'en fin de course, je suis à moins 1,9. Donc là aussi, si je retire les 300 000 euros des crus, je suis à moins 1,6. Donc à un moment, ça a dû dérailler quelque part. D'accord ? Et la problématique, hein, c'est que quand j'ai payé le banquier au niveau des intérêts, je n'ai pas assez sur mes recettes propres de fonctionnement pour lui payer le remboursement du capital. Donc je viens taper dans mon FCTVA ou mes subventions d'investissement. Ils ne sont pas destinés à ça. Donc je suis équilibré budgétairement, mais je suis dégradé financièrement. D'accord ? En fait, c'est comme si dans un ménage, avec vos salaires, vous payez vos frais d'alimentation, l'électricité, le gaz, de prendre un resto avec les copains. Et vous n'avez plus suffisamment d'argent pour rembourser en partie l'annuité pour le prêt de votre voiture. Voilà, la situation, là, fondamentalement, c'est un petit peu ça. Alors, forcément, comme j'ai plus de capacité à autofinancer, pour investir, et j'investis fortement, hein, 40 millions, je vais devoir taper sur d'autres ressources. Donc, les ressources mobilisées, c'est essentiellement les emprunts et ce qu'on appelle le fonds de roulement, lisez le bas de laine à la trésorerie. Donc, on a tapé dans les économies, quoi. On est passé de 3 millions pour finir à 260 millions au niveau du budget général. Autrement dit, Quand on ramène 262 000 euros en nombre d'années de dépenses de fonctionnement, c'est 4 jours. Donc j'ai forcément des problèmes de liquidité. Bon, après, il y a des indicateurs qui ne trompent pas. L'épargne nette sur les dépenses d'investissement négatif. Et la part des emprunts dans les dépenses d'investissement, bien évidemment, elle était importante. Ça, c'est le budget général. Donc, quand je viens additionner au budget général, c'est juste pour avoir une idée. Mais budget annexe, alors je vais additionner, vous allez me dire, du TTC avec du hors-taxe. Mais ça donne quand même une tendance. On s'aperçoit avec les mêmes agrégats que j'améliore mon autofinancement net, puisqu'on passe de 1,9 à 1,2. Mais ça veut dire que je dirais, les cercles vertueux de certains autres budgets ne gomment pas le retard pris en matière d'épargne par le budget général. Et si je n'avais pas, avec tous les investissements, tapé dans le bas de l'aine, dans les économies, il me manquait 6 millions cumulés. Voilà. Donc c'est vraiment le bas de l'aine qui a fait la soulignée. Alors, là on est vraiment sur le bas de l'aine, puisque chaque budget a un bas de l'aine. Donc le budget général, on l'a vu, hein, on est passé de 3 millions à 260 000 euros. Pas de remarques particulières, c'est déjà, je vous les ai déjà faites. Et on a deux budgets eau et assainissement qui, eux, ont une trésorerie intéressante. Ensuite, on a le golf qui est passé de 140 000 de trésorerie à moins 19 000. Le pic du Gers qui passe de 181 à moins 400. Et on va voir pourquoi. On a des activités funéraires qui rapportent tous les ans. Le parking également. Des activités industrielles et commerciales qui cumulent. Hein. Un déficit depuis pas mal de temps. Et on va voir pourquoi. Et on a une unité fermière qui fait un petit peu d'argent. Donc au final, on a un bas de l'aide de 1,2 million. Et ce 1,2 million est essentiellement réalisé par l'eau et l'assainissement. Et ça pose un problème. Ça veut dire que soit le prix de l'eau assainie est trop élevé, ou soit les travaux qui correspondent au prix de l'eau ne sont pas faits. Pas normal que ce soit l'eau et l'assainissement qui tirent la trésorerie globale de l'eau. Donc, alors, un élément de conclusion sur le budget général, notre problème est surtout là, et on est en train de regarder très précisément. Donc on a une progression des dépenses de fonctionnement de 15% et des recettes de 5%. Donc forcément, plus 10 en fin de période, c'est mathématique, hein, il suffit de compter à l'année, et à un moment, on est à 0. Ce qui est le cas en 2013. Conséquence, on n'a plus de capacité à autofinancer. Pourquoi? Parce qu'on a explosé au niveau des dépenses de fonctionnement. Problème de maîtrise, avec la principale, la masse salariale, qui entre 2012 et 2013 a pris 900 000 euros. Donc là, c'est complètement délirant, parce qu'on était également sur une problématique de schéma de mutualisation des services imposée par la loi de l'ATR de 2010, mais je reviens. Et il y a eu un petit peu de recours au levier fiscal avec un dynamisme des bases, mais ça a été annihilé par une baisse de dotation de l'État. Donc on est vraiment serré, Madame le disait. Les marges de manœuvre sur la dette, c'est néant. Sur la 50% des charges qui sont des frais personnels, c'est néant. Donc, on commence à être à l'étroit pour relever le niveau d'épargne. Malgré tout, il y a une politique d'investissement qui est assez soutenue. 24 millions d'emprunts réalisés. Alors, c'est vrai que ça, personne n'y paraît. Hein. La crise des subprimes, ça a tout emporté. Donc, à un moment, il y a des emprunts qui étaient élevés au plus cher. Et comme il y avait des engagements juridiques de dépenses de prix, bien heureux celui qui trouvait de la trésorerie. Il ne pouvait même pas négocier le taux. C'était de la trésorerie, ou alors on avait une cessation de paiement. La bonne nouvelle, quand même, c'est que l'encours de dette n'est pas risqué, parce que j'ai quelques collègues avec des prêts structurés qui pleurent. Hein. La conséquence, c'est que le bas de laine, lui, il a été complètement dégradé, de 3 millions à 160 000 euros, je l'ai dit. Donc, on commence à avoir des problèmes de trésorerie. Alors, ça c'est clair, et la ligne de trésorerie fait quelques mois, il se dure. La soudure. Et une situation d'endettement avérée. Pourquoi ? Parce que le ratio universel de mesure, on n'a pas parlé, c'est l'encours de dette ramené au niveau d'épargne brute. On a un niveau d'épargne brute de 400 000 euros, un encours, je crois, de 28 ou de 29 millions. Quand on fait le rapport, ça fait peur, c'est 65 ans d'épargne brute. Généralement, on est en situation très rouge à partir de 12 ans. Bon, on est à 65 ans fin 2013. On doit essentiellement recouvrer de l'épargne, faire un effort sur les charges. Quand on regarde tout budget confondu, on a des budgets annexes industriels et commerciaux qui ne s'équilibrent pas par le tarif. C'est-à-dire que c'est par l'impôt qu'on finance ces services-là. Alors, ça peut paraître. Ça ne peut pas nous poser des questions d'équité, de ces budgets. Et des produits de location industrielle qui sont payés par le contribuable, donc le budget du GOT, par exemple, un déficit annuel, malgré une subvention de la ville tous les ans de 150 à 160 000 euros. Malgré tout, il perd de l'argent. Et on a constaté également qu'il y avait des interventions du budget général, notamment sur l'entretien des grilles, qui ne sont pas valorisées dans la compta. Donc ils règlent le problème. Ça doit tourner autour de 300 000 euros. Vous rajoutez les moins 19 000, voilà. Donc ça pose un problème. Vous avez des admissions en valeur, donc des défauts de paiement qui n'ont pas été présentés en conseil, qui vont l'être en janvier, pour 22 000 euros en plus.
Ah bon.
Vous avez un PIB UGER qui, lui, est bien sur le fonctionnement, mais dès qu'on fait des grosses réparations, il plonge, parce qu'il n'a pas le niveau de recettes suffisant pour éponger les frais d'amortissement, de grande révision, ce genre de choses. Et des activités, un budget activité industrielle et commerciale, qui, lui, pose vraiment problème, puisqu'il a des créances depuis bien longtemps, depuis 2011, qui n'ont toujours pas été présentés en en-valeur depuis 2011. Et l'ardoise, elle est importante, ça fait 400 000 euros. Donc ça, on doit le prendre en compte. En 2015. Ce sont des défauts de paiement, en fait. Ce sont des entreprises qui louent des bâtiments industriels, qui ont ou fondu les plombs, ou pas payé, ou on est en train de faire examiner juridiquement toutes les créances pour pas derrière des aides économiques directes, parce que ça c'est interdit, mais ça pèse beaucoup. Voilà, donc je suis désolé, en 2015, vous allez prendre 400 plus 22. Néanmoins, la lourde, tout budget confondu, c'est 60 millions d'investissements, c'est un gros pourvoyeur de travail, hein, en développement économique, 32 millions d'emprunts levés. Un encours de dette non risqué en cumulé, par contre de mauvais niveau d'épargne, c'est pas bon. Et un résultat global de clôture qui se dégrade. Une situation globale d'endettement, parce que comme on n'a pas d'épargne, forcément, et un encours important, on est une commune endettée. Et une trésorerie cumulée en baisse et qui est générée aux trois quarts par des activités annexes. Alors que normalement, c'est l'inverse, c'est le budget général qui tire tous les autres budgets. Là, c'est différent. C'est l'assainissement, sans jeu de mots, qui est sur la liquidité.
C'est pas mal, ça.
Pardon. C'est
l'eau de Lourdes.
D'accord.
À une époque, voilà. Ils avaient promis de baisser l'eau pour les Lourdes, mais je vois qu'elle est vite remontée.
Et c'est ça qui
nous...
Alors, je vous laisse au débat après, je vous finis juste, excusez-moi, je vais en faire premières orientations. Donc là, forcément, vous comprenez, c'est un réflexe bon père de famille. Quand on n'a pas d'autofinancement, quand on ne peut pas payer totalement le banquier, je serre la ceinture. C'est C'est vrai, la ceinture, c'est quoi? C'est un plan d'action urgent qu'on a attaqué depuis quelques temps. Sur des économies à faire en matière de dépenses de fonctionnement, pour les actions. Il n'y a pas le choix. La dette, c'est pas possible. C'est la politique d'achat. C'est la politique RH. Alors je rassure, hein, si j'ai des collègues dans la salle, on ne dira pas rien. Par contre, on va travailler avec l'obligation qui est faite depuis 2010 de mutualiser les services. Comment on dit ? D'optimiser la ressource humaine. Demain, est-ce qu'il est toujours concevable d'avoir une activité, par exemple, de ressources humaines à la ville, avec une activité de ressources humaines à l'office de tourisme, une activité de ressources humaines au CCAS, une activité de ressources humaines à la CCPM et élargir le cadre. Mutualiser, c'est faire un gros pool service support pour gérer et rendre des passations avec les autres budgets, regrouper pour mutualiser. Donc, forcément, il y aura un impact sur les embauches, un peu excédent. La politique de participation et de subvention, là aussi, va falloir regarder de très près et travailler en partenariat et par contractualisation avec nos syndicats mixtes et nos associations. Je ne suis pas magicien. Il faudra valoriser les éléments d'actifs. C'est nécessaire parce qu'en plus, il y a beaucoup de bâtiments de bâtis à Lourdes, un répertorié 130 bâtiments. Dans un état sanitaire de manière particulière. Donc ça veut dire qu'il nous coûte déjà de l'argent. Donc valoriser, c'est en faire des outils à la vente ou à louer, etc. Mais on ne pourra plus. Par contre, le fait de valoriser, c'est supprimer les charges, c'est augmenter notre niveau de trésorerie parce que tous les mois, ça commence à klaxonner. Tout simplement. C'est également la mobilisation de nouvelles recettes de fonctionnement. Alors, c'est pas mettre des épaules en plus, mais au niveau de l'audit, on s'est rendu compte qu'on avait une compense de transport public de personnes, mise en place depuis fort longtemps, avec une recette associée qui n'a jamais été levée, qui s'appelle le versement transport. C'est comme si, par exemple, on collectait, on traitait les déchets sans avoir institué la taxe d'enlèvement dans le tournage. Donc forcément, ça crée un décalage entre les dépenses et les recettes. Et si je crois qu'on a une possibilité, à travers le versement transport, de nouveaux produits de 500 000 euros, ben vous regardez, 500 000 euros tous les ans, quand je fais 500 plus 500 plus 500 en 4 ans, ça fait 2 millions. Et peut-être que c'est une partie de la réponse aussi à mon problème d'épargne. Il y a une réflexion, il ne faudra pas s'en cacher, à mener sur les modes de gestion du service public et du service commercial déficitaire, qui sont structurellement déficitaires. On ne peut pas continuer. Ça doit s'équilibrer par un tarif. Si on n'est pas au rendez-vous, il faudra envisager d'autres solutions. Et Madame l'a dit, malheureusement, il faudra limiter la politique d'investissement du budget général, sauf à avoir un énorme effort sur l'épargne. Idéalement, pour investir massivement, il faut être autour d'une épargne nette qui correspond à 10% des recettes réelles de fonctionnement. Pour nous, il nous manque 2 millions, et en fait, il faudrait une épargne nette de plus de 2. Donc le gap a passé, c'est 4. Voilà. Donc j'espère que je ne vous ai pas tous ces concepts.
Sur les frais fixes, vous avez dit tout à l'heure que la RH est.
Vous avez dit tout à l'heure que sur le tableau que vous avez fait voir, sur les ressources humaines, ça a dérapé entre 2012 et 2013. On est passé de 8 900 000 à 9 800 000.
Oui.
Donc ça correspond à combien d'emplois?
Oui. Forcément, je n'ai pas les chiffres en tête, mais forcément, c'est des emplois. Hein. C'est clair. Pas des heures sup qui vous font passer parce qu'un gars de 1 million d'euros. Hein. Donc on n'a pas totalement creusé, mais il y a, oui, il y a plus de 10, 12, 13 emplois, ça c'est clair. Et ça, c'est du de l'incompressible. Une fois que la personne est recrutée, agérisée, puis fonctionnalisée. Et vous le voyez, bon, sur le total. Les frais de personnel dans les 2,9 millions, ça pèse sur la période 1,6 million. c'est vraiment la dépense à regarder de très près. Alors, dans les frais de personnel, comme vous le savez, il y a une part obligatoire sur laquelle on a un zéro pour la direction. C'est l'indice, hein, et le programme, hein, au fonctionnaire. Et vous avez une part variable, donc c'est toute la logique de prime, leur sup, ce genre de choses. Là, on peut agir également sur le personnel, sur l'avancement de carrière. On peut agir sur les promotions. C'est une idée.
Si je peux donner un petit éclairage, du 1er janvier 2013 au 1er avril 2014, il y a eu 41 arrivées pour 16 départs. C'est-à-dire qu'il y a eu 18 personnes qui ont été employées en CDD ou saisonnier et qui après ont été pérennisées.
Année électorale.
Eh oui.
Sur l'augmentation du personnel aussi, ce qu'on peut noter, c'est que cette augmentation sur la réalité du précédent mandat de 1 672 000, donc cette augmentation s'est faite alors qu'une mutualisation aurait dû se mettre en œuvre, notamment au niveau de la CCDM. Puisque des services qui ont été mutualisés, par exemple la petite enfance, par exemple, qui est partie au sein de la CCDM. Donc il aurait dû y avoir des transferts de charges de personnel qui auraient dû glisser en fait sur la CCPL et diminuer le budget de la ville.